On était, pour ceux qui ont encore des notes, en bas de la page 73. On parle de cette mine de la déception, le découragement qu'apporte souvent la déception, bien entendu, mais aussi que on va terminer tout ce chapitre sur cette mine en parlant du fait qu'on doit apprendre à s'en remettre au plan de Dieu. C'est pas simplement de s'en remettre à Dieu lui-même, mais de réaliser que Dieu a un plan pour nous, que Dieu a quelque chose de prévu. On en a parlé un tout petit peu l'autre jour du fait que rien ne nous arrive qui soit un hasard et qui soit échappé hors du contrôle de Dieu. Et que Dieu, s'il a permis une certaine chose, il peut l'utiliser pour notre bien. Y compris le fait qu'on a été déçu grandement par quelque chose et qu'on se dit, Dieu a un plan. Malgré cette déception, malgré cette chose qui m'est arrivée, et peut-être que Dieu aurait voulu que ça n'arrive pas, mais il l'a permis quand même, parce que pour multiples raisons qu'on a déjà vues, et qu'il veut encore utiliser, il a un plan pour utiliser ce découragement, cette déception par laquelle on passe, pour notre bien. Et il faut s'en remettre à lui, de savoir qu'il reste en contrôle. Et on sait bien combien il est difficile pour nous de garder la tête froide, comme on dit, d'avoir la tête bien sur nos épaules, comme on dit, quand en même temps on est rempli de crainte, ou comme on est en train de voir, quand on est rempli de déception qui nous mène au découragement. Il nous est difficile de garder cette tête froide. C'est difficile de nous de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vouloir amplifier le problème, mais pas seulement, c'est également difficile pour nous de ne pas oublier les vérités bibliques que nous connaissons déjà et que Dieu nous a déjà enseignées. Parce que quand on commence à amplifier le problème, ça prend la place de ces vérités qu'on sait, qu'on connaît, et ça les submerge un peu, ça les met de côté. Et si en plus des découragements, on se sent déçu de Dieu lui-même, et ça arrive, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais j'ai déjà entendu, et j'ai entendu également d'autres témoignages de personnes qui ont utilisé ces termes, d'avoir été déçus de la personne de Dieu à cause de ce qu'il a permis dans leur vie. Parce qu'ils ont eu, ils ont l'impression que Dieu n'a pas agi envers eux comme il l'aurait dû. Alors, si nous on en arrive à ce point-là, faisons bien attention, parce qu'il faut régler ça au plus vite. Nous parlons souvent de notre vie de prière et de notre temps de lecture, surtout à travers cette étude. Le fait est, ce sont toujours les deux endroits qui sont affectés très rapidement par la façon qu'on fait face au problème. Et comme ici, dans la façon qu'on fait face au découragement et à la déception, si on ne fait pas attention, notre vie de lecture et notre vie de prière en sera affectée aussi. Soit nous allons utiliser la Bible et notre temps de prière pour nous aider, alors qu'on est déçu, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous guider, ou bien, comme c'est souvent le cas, on va le faire moins, on va prier moins, on va lire moins. Et même quand on lit ou quand on prie, ce n'est même plus avec la même ferveur non plus. On va lire parce qu'on sait qu'on doit, mais on ne va pas lire et on ne va pas prier avec la même foi qu'avant. On ne va pas prier et lire avec la même humilité et peut-être même pas avec la même soumission. Et il n'est pas étonnant que notre vie spirituelle se dégrade à vue d'œil dans ces conditions-là. Beaucoup ont lu le psaume 23 pour les aider à se sortir d'un grand sentiment de découragement, voire même de dépression. C'est un psaume qui a été utile pour énormément de personnes et qui devrait toujours nous être utile, nous, aujourd'hui. Il faut bien comprendre que David a écrit ces lignes, pas quand tout allait bien, mais au contraire, pendant un moment de tourment dans sa vie. Il a écrit ces lignes quand sa vie était littéralement en danger. On sait, il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a utilisé David pour écrire une portion de sa parole, mais je suis également 100% persuadé que David pensait chaque mot qu'il écrivait aussi. qu'il n'y a pas une parole qu'il a écrite, qui dit, oh, ça, je ne pense pas que c'est vrai, mais le Saint-Esprit me force de l'écrire. C'est pas ça non plus. Et il pensait également toutes les choses qu'il a écrites. On a commencé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais quand on a commencé ce chapitre sur la déception, on a commencé avec David. Et donc, il est normal qu'on termine avec lui aussi, pour ainsi dire. On avait parlé du fait comment il était déçu. Lui qui était loin devant sa famille, promis d'être roi d'Israël, et non seulement est-ce que des années plus tard, il ne l'est toujours pas, mais en plus maintenant il est en fuite. Le roi Saül le pourchasse sans relâche et il veut le tuer. Et qu'est-ce que David fait pendant ce moment qui pourrait être de grande tristesse, de questions, de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et d'être déçu. Bah, entre autres, on voit à travers ce psaume 23 de quelle manière, qu'est-ce qu'il fait en attendant cela. Et on va voir, si vous me permettez, s'il n'y a que six versets, un verset à la fois. Je vais faire quelques commentaires sur chaque verset et j'aimerais également vous laisser la parole sur qu'est-ce que ces versets, je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que cela vous inspire, mais qu'est-ce que ça vous dit, de quelle manière est-ce que ça vous touche, surtout si vous vous mettez dans la même situation de David, où il n'était pas roi, il n'était pas couronné et dans un grand prestige, etc., en train de gouverner, en fuite, peur pour sa vie, et toujours pas le roi qu'il a été promis d'être. Premier verset, il dit, Cantique de David, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, on pourrait faire tout un message rien que sur ce verset-là. Il y a énormément à dire. Mais ces quelques paroles nous suffisent pour nous révéler, dans notre situation, de cette étude, le cœur de David, pour moi. Un cœur qui fait entièrement confiance, foi en son Dieu. Il commence en parlant pas de son problème, pas de lui, mais de son Dieu, qui est son berger. L'Éternel est mon berger, et le résultat logique, je ne manquerai de rien. On voit la foi qu'il a dans son Dieu. C'est personnel. Hein, et de toutes les personnes sur Terre, David est la mieux placée pour savoir que ce n'est pas lui qui a terrassé Goliath. Oui, Dieu l'a utilisé, mais il savait que ce n'était pas par la force de son bras qu'il a pu lancer cette pierre de sa fronde avec une telle puissance, d'une telle agilité, que c'est lui, avec tous ses talents, qui a terrassé Goliath. Il savait que c'était Dieu qui lui a donné cette victoire. De toutes les personnes, malgré ce que les autres pouvaient dire, malgré les chants qui pouvaient acclamer son exploit, lui savait, et il le répétait, que c'est Dieu. Il savait qu'il n'était pas promis d'être roi parce qu'il méritait d'être roi. Il était le plus petit de ses frères. Logiquement, par coutume et habitude, c'était pas lui qui devait être le prochain roi. Il savait que Dieu ne lui a pas demandé, ou pas demandé, que Dieu ne l'a pas établi comme roi, parce qu'il le méritait. C'est une grâce, c'était ce que Dieu a voulu. Il le savait. David savait d'où lui venaient toutes choses. Il sait à qui il appartient. Il sait envers qui il doit tout. Alors, quand ses propres émotions voudraient faire surgir le doute et le découragement, je vois ce cantique comme une cantique de prière. Il se tourne vers Dieu. Il dit, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Combien de milliers de personnes ont récité ce psaume comme une prière, justement, n'est-ce pas? Quand ils passaient par des moments les plus difficiles, quand ils avaient peur, quand ils avaient des craintes, de toutes sortes, ils l'ont récité comme si c'était une prière. Ils n'ont pas tort. S'ils étaient déjà des enfants de Dieu et s'ils, comme David, plaçaient réellement toute leur foi en la personne de Dieu. Je sais qui il est, je sais qui je suis, je sais quelle est ma place et je mets Dieu à sa juste place. Alors pour vous, qu'est-ce que ces paroles disent pour vous? Est-ce que ce sont des versets ou un verset, puisque ce n'est qu'un seul, que Dieu pourrait vous utiliser quand vous passez par un moment de découragement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh oui, c'est bien pour les autres, mais pour moi, j'attends pour voir. Qui voudrait partager quelque chose? Si vous avez, sinon, on passera au prochain verset.
C'est comme tu disais que tout cela dépend de lui et pas sur nous. Ça n'a rien à voir avec nous. On est son mouton.
Oui.
On lui appartient. Il n'y a rien qui vienne de nous. C'est juste ça vient tout de Dieu.
C'est l'insinuation qui est comprise. S'il est mon berger, je suis sa brebis. Je ne suis rien. Et je ne suis rien sans lui. C'est vrai. Mais il faut pouvoir affirmer que c'est vrai, que l'Éternel est mon berger. Pas toute personne peut dire cela. Une personne inconvertie ne peut pas dire qu'il est mon berger. Il veut être leur berger. Quelqu'un d'autre, autre chose? Ces versets vous disent quelque chose? Dans le verset 2, il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Donc, il parle toujours de Dieu, mais cette fois-ci, de pas qui il est, mais ce qu'il fait pour moi. C'est une belle image pour moi de celui qui est en règle avec Dieu. Parce que ce verset ne peut être vrai si je suis contre sa volonté. Ce verset ne peut pas être vrai. Dieu ne me dirige pas vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Quand je, dans mon orgueil, que je vais à l'encontre de sa volonté. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Mais c'est une belle image de celui qui est en règle avec Dieu. La paix, la tranquillité, la satisfaction sont toujours présents, même s'il fait face à une situation difficile. Combien de fois est-ce qu'on peut voir ceci être vrai pour David alors qu'il est à l'intérieur de la grotte pourchassé par Saül? Une paix, une tranquillité, parce qu'il sait en qui il appartient. Et ce vert pâturage, ces eaux paisibles, n'ont pas autant à voir avec Dieu qui enlève mes circonstances, mais Dieu qui travaille mon cœur. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les difficultés, ici, pour nous, malgré la déception, le découragement, Dieu peut m'apporter la paix et la tranquillité si je veux bien faire ce qu'il faut pour être en règle avec lui. La paix, c'est le résultat logique auquel on peut s'attendre quand notre cœur est entièrement soumis à Dieu par amour pour lui. Et l'inverse est aussi vrai quand on refuse d'être en règle avec lui, qu'il est irraisonnable d'espérer avoir cette paix quand on refuse de faire ce que Dieu demande de nous. Pour l'inconverti, beaucoup recherchent la paix, mais ils refusent d'accepter le salut que Dieu donne. Donc ils recherchent la paix ailleurs, dans les finances, ou dans les rituels, ou dans les statues, ou je ne sais quoi d'autre, toutes formes de prières. Et Dieu dit non. Soumission, humilie-toi, accepte-moi pour qui je suis. Et tant qu'ils ne font pas, ils n'auront pas cette paix. Mais celui qui le fait, celui qui s'en remet entièrement à son bon berger, qui lui fait entièrement confiance, oui, il ne peut pas avoir autre chose qu'une vraie paix. Ça ne veut pas dire que Dieu nous expliquera toujours pourquoi telle ou telle chose nous arrive, on le sait bien, mais en même temps, le pourquoi ne sera plus aussi important pour nous. Avant, on doit savoir. Il faut que Dieu m'explique. Je veux savoir pourquoi. Mais quand on est enfin en règle, qu'on met Dieu à sa juste place et que c'est lui qui règne et que c'est lui qui décide. D'accord. Je me soumets. Si je me soumets, je n'ai plus besoin de savoir pour pouvoir accepter. J'ai seulement besoin d'accepter qui tu es et que tu es mon Dieu et que tu ne fais pas d'erreur. Tu es mon bon berger, je ne manquerai de rien, tu t'occuperas de moi. Le pourquoi n'est plus important. Le problème est toujours là, les difficultés sont toujours là, mais tu n'es pas obligé de m'expliquer pourquoi tu as permis. J'accepte, parce que j'accepte qui tu es. Et là, la paix arrive, la paix survient. Au lieu de dire pourquoi, Seigneur, nous serons en train de dire aide-moi, Seigneur, à faire face et traverser cette épreuve d'une manière qui te plaise et qui t'honore. Au lieu d'être déçu parce que les choses ne vont pas comme on l'avait espéré, si notre cœur est centré sur Dieu comme celui que David l'était, alors on pourra dire nous aussi, comme David a dit, les versets 3 et 4. Mais avant de voir les versets 3 et 4 ensemble, je vous laisse encore la parole si vous avez des remarques à faire par rapport au verset 2. Du fait qu'il me fait reposer dans des verts pâturages et me dirige vers des eaux paisibles.
Moi, ça me fait penser que de ma part, de moi-même, ce ne serait pas mon choix personnel. Moi, je serais en train de partir quelque part ailleurs. Le fait qu'il me fait reposer, donc ça veut dire que de moi-même, j'aurais peut-être pas fait ce choix, mais il sait que c'est pour mon bien. Moi, j'aurais choisi, par exemple, le découragement ou la défaite. Le fait qu'il me dirige près des eaux paisibles, c'est lui qui prend le dessus et qui dit non, toi tu vas là, non, il faut aller vers là.
C'est vrai, c'est des bonnes remarques. Et on en parlait sous un autre contexte l'autre jour. Il me fait reposer. Parfois, Dieu est obligé de nous faire asseoir à ses pieds au lieu d'être celui qui fait toujours. Le mari et les Marthe. Il y a un temps pour tout. Là, tu as un temps pour te reposer. Il nous fait reposer parce qu'on est trop bête parfois. De savoir qu'il faut qu'on arrête pour se reposer un peu. Mais il y a toujours quelque chose à faire, oui, justement, il y a toujours quelque chose à faire. Même si tu fais ça, il y aura encore autre chose. Et repose-toi pour que tu puisses continuer à faire dans le long terme. Et qui nous dirige vers les eaux paisibles, oui. Oui, mais cette eau-là, elle a l'air bien. Oui, mais non. Ça peut-être, elle a l'air bien, ça sera peut-être comme les eaux de Marat. Là, tu as des eaux paisibles, tu ne crains rien. Il n'y a pas de problème, elle est douce, elle est bonne et il n'y a pas de danger autour. On peut être attiré à droite et à gauche, mais il faut qu'on se laisse diriger. Diriger, ça veut dire qu'on se soumet. Qu'ils nous disent, va là-bas. D'autres remarques? Je ne veux pas empêcher qui que ce soit à vouloir partager. On ne terminera pas le chapitre entier de toute façon. Hein. On verra ces versets 3 et 4 et on s'arrêtera là certainement, même s'il n'y a que deux versets après. Mais j'essaie de garder chaque étude dans les vingtaines de minutes. Et il dit, ben, si on, comme on dit, si notre cœur lui est entièrement soumis, qu'on lui fait vraiment confiance, alors les versets 3 et 4 devraient être vrais pour nous aussi. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, si on veut vraiment avoir la paix dans notre vie, on est obligé, je dis obligé, parce qu'il n'y a pas d'autres options, de faire confiance, de placer notre foi en Dieu avec nos problèmes, mais aussi avec notre futur, ainsi qu'avec notre vie. C'est pas juste de faire confiance en Dieu pour une situation précise et spécifique seulement, mais c'est pour tout. C'est la situation présente, mais c'est pour tous nos problèmes, pour notre futur et notre vie. De placer sa foi en Dieu pour nos problèmes et difficultés ne veut pas dire qu'on doit prier et ensuite agir comme si de rien n'était. Dire, bah, pardon. Je fais confiance à Dieu de régler mes problèmes. Maintenant, je peux faire ce que je veux sans réfléchir. Sinon, ça ne veut pas dire cela. Mais qu'on peut agir. Pas basé sur la crainte qu'on avait auparavant, mais avec la confiance que Dieu s'occupera de nous. C'est bien différent. On peut agir maintenant sans avoir en ayant maintenant cette bonne perspective de ce que Dieu a un plan et que Dieu va utiliser cette situation pour mon bien. Et donc, ça nous aide à agir avec confiance, avec assurance, et non en mode panique, comme on dit parfois. Mais il s'occupera de nous comme il l'a promis. et donc croire que les choses iront mieux parce que j'ai enfin trouvé la solution. On doit avouer qu'il y a un problème. Parfois, il y en a qui ont. C'est déjà la première. C'est le premier obstacle. Je dis non, non, c'est pas. Ouais, c'est pas plaisant, mais c'est pas vraiment un problème. Je trouverai la solution. Non, on doit avouer que c'est un problème. Et on doit même avouer que c'est pour notre cas de cette étude qu'on a été déçu. Hein, qu'on aurait préféré donc. Si on est déçu, c'est qu'on aurait préféré que les choses. Et soit allé autrement, qu'on n'est pas heureux de la manière qu'elles se sont déroulées. Mais une fois que nous remettons toutes ces choses entre les mains de Dieu, qu'on accepte également que Dieu est en contrôle et qu'il ne fait pas d'erreur, alors au lieu de changer la situation, on accepte d'être enseigné à travers cette épreuve. Et est-ce que Dieu peut-être nous change, nous, change notre pensée, change notre cœur, change notre façon de voir les choses et que on accepte à ce que Dieu a permis cela pour que nous soyons changés et qu'on devienne plus mature. J'ai envie de dire meilleur, ou qu'on devienne de plus en plus comme Christ au moins. Mais il dit, il restaure. On sait bien ce que ce mot veut dire. Elle était bien, quelque chose s'est passé, elle est moins bien. Et qui la rend bien de nouveau pour faire plus simple. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais j'aime cette phrase à cause de son nom. Pas à cause de qui je suis, pas parce que je le mérite, pas, même pas parce que je l'ai demandé. À cause de qui il est lui. Et il est fidèle, et il est juste, et il est bon, et il est amour, et il est compatissant, et il est miséricordieux. Et il ne nous abandonnera pas. Et il ne nous oubliera pas. Et il ne nous induira pas en erreur. À cause de son nom qu'il fait cela, pas à cause de nous. Et ce n'est même pas pour nous qu'il le fait. Il le fait pour nous. Mais ce qui le motive, c'est lui, sa sainteté, sa divinité. Je suis Dieu. C'est moi qui est le souverain. Je règne sur tout. C'est moi qui décide et je veux faire cela pour toi. Et c'est à cause de son nom, change tout. Parce que peu importe ce qu'on peut faire, peu importe la foi que nous mettons, peu importe la soumission et l'humilité que nous montrons, si Dieu a décidé de ne pas, on ne pourra pas changer son avis. Mais il le fait à cause de son nom. Bon. Et je suis content que ça se trouve pratiquement en plein milieu. La dernière ligne du troisième verset sur 6 pour nous dire à cause de son nom qu'il fait ces choses. Qu'est-ce que je pourrais continuer, hein? Chaque verset peut être un message en lui-même. Est-ce que vous aimeriez partager quelque chose par rapport à ces versets avant qu'on termine ce soir? Je sais que ce verset 4 est celui qui est souvent cité dans les films parfois quand il. Surtout dans les films militaires, quand ils passent par les moments les plus difficiles, ils répètent ce verset 4 encore et encore et encore, comme si c'était une prière magique qui les protégera des balles qui sifflent autour d'eux. Mais. Pour leur donner le courage de faire face à l'ennemi, ou etc. Sa houlette et son bâton, ce sont deux termes différents qui parlent de deux outils différents que le berger utilise pour s'occuper de ses brebis. L'une, c'est pour la brebis elle-même, l'autre, c'est pour les prédateurs qui viendraient à l'encontre de la brebis. Une, c'était vraiment un bâton, l'autre, c'était comme on voit souvent décrite avec une grande boucle à la fin qui pouvait accrocher la brebis pour la tirer vers lui, si, surtout s'ils sont pris dans des branches ou dans une petite fosse ou quelque chose, ou juste pour la ramener. auprès de lui. Mais bon, on pourrait parler, mais c'est ce qu'il y a des commentaires.
Premier verset là jusqu'à ce verset fin de verset 3, on a le témoignage de David. Il est en train de s'adresser à qui? Il est en train de s'adresser à ses lecteurs, il est en train de s'adresser à qui veut bien entendre. Et la deuxième partie, bah, il s'adresse à l'Éternel. Donc il y a deux témoignages là. Il y a le témoignage de David pour nous et le témoignage de David pour l'Éternel. Ce que l'Éternel a fait pour lui, et sa situation, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce psaume, c'est, comme dans tous les psaumes, mais c'est vraiment l'emphase sur l'Éternel. C'est sûr qu'on parle toujours de notre relation à Dieu, de David, de sa relation avec l'Éternel, etc. Mais là, on ressent vraiment cela. Ça commence par l'Éternel, et puis bon, vers la fin, c'est j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a une sorte de boucle hein, qui est bouclée, mais voilà, l'emphase elle est sur ce que Dieu est. Il aurait pu commencer, je suis la brebis de l'Éternel, mais ça n'a pas le même impact que l'Éternel est mon berger.
Ouais, c'est
Enfin,
vrai.
tout est au sujet de Dieu et pas au sujet de David, vraiment, mais de ce que Dieu est, de qui il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il pourvoit, de ce qu'il restaure, de ce qu'il guérit, de ce qu'il. Il apporte toutes ces choses, toutes ces bénédictions. Moi, je sais que pour avoir manipulé les brebis, pas beaucoup, hein, mais ça m'est arrivé, ce n'est pas forcément des animaux dociles. On ne les fait pas venir facilement à un endroit. Généralement, il faut les attirer avec quelque chose, il faut les attirer avec de la nourriture ou quelque chose. Et là, quand ils savent, ça leur demande, là, ils viennent. Mais là aussi, quand on considère, voilà, qui Dieu est et ce qu'il fait, il pourvoit, il donne, il dirige pas des zones visibles, il mène vers les verts pâturages, il nous fait reposer là. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour nous attirer à lui, sans qu'il ait à nous prendre par le cou ou par le col pour nous faire aller où on doit aller, même si souvent on agit comme ça. Mais voilà, comme l'emphase elle est vraiment sur Dieu et en train de montrer hein, toute la beauté d'avoir l'Éternel comme berger.
Amen, c'est vrai. Comme tu l'as remarqué, les trois premiers versets, il utilise il en parlant de l'Éternel, et les trois derniers, il parle directement tu. Et on devrait avoir cette même facilité, nous aussi, de témoigner aux autres, dire voici qui est l'Éternel, Dieu pour moi, et de passer très facilement de cela à prier à Dieu directement avec cette simplicité de l'appeler Père. Et ce n'est pas irrespectueux, c'est ce que lui veut. Il veut cette communion. Et bon, Dieu voulant, on verra, on terminera encore avec les deux derniers versets, puis on aura encore que, oui, on n'aura pas beaucoup plus à voir après, mais.